Donc moi, je vais vous emmener à la recherche des collections scientifiques et techniques au musée des Confluences et vous verrez pourquoi je parle de recherche. Je précise tout de suite que je suis la seule à parler, mais on a préparé ça à deux, avec ma collègue Séverine de Rolez, ici présente, et qui est doctorante au laboratoire S2HEP de Lyon 1. C'est un laboratoire spécialisé dans l'histoire et la didactique des sciences, et nous l'accueillons au Musée des Confluences dans le cadre d'une convention de recherche, une convention CIFRE pour 3 ans. Elle a commencé il y a 1 an, donc elle a encore 2 ans à partager la vie trépitante du musée. Donc je vais commencer par le plus gros objet. Vous m'entendez? C'est trop fort, pas assez, ça va? Je vais commencer par le plus bel objet scientifique et technique du musée, qui est le musée lui-même. Voilà, donc ça c'est des photos qui datent d'octobre 2013, donc il y a assez peu de temps. Et donc juste pour vous représenter un petit peu la bête, qui a été conçue par l'agence autrichienne Kupp Himmelblau, et plus précisément par l'architecte Wolf Prix. Donc un bâtiment assez spectaculaire, placé au confluent du Rhône et de la Saône, d'où son nom. Et donc avec la partie qui est sur la droite qui est transparente, qui s'appelle le cristal, et la partie à gauche qui sera bientôt entièrement recouverte et qui s'appelle le nuage. Et donc en fait c'est vraiment tout un dialogue entre ces deux parties architecturales, tout comme le musée se veut un dialogue entre différentes disciplines, entre différentes approches. Vous avez au premier plan le nouveau pont Raymond Barre, qui a été lui aussi une prouesse architecturale puisqu'il est arrivé par bateau, par barge, et qui permettra de desservir le musée des Confluences avec le tram. Voilà, donc je vous passe d'autres photos prises sous différents angles, et donc objets scientifiques et techniques, puisqu'il a fait appel à beaucoup, beaucoup de disciplines. On pourrait citer simplement la résistance des matériaux, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup de quoi dire, ou la mécanique, avec des calculs sur les charpentes absolument impressionnants, qui ont d'ailleurs parfois un petit peu retardé le chantier tellement c'était complexe. Et donc ce musée, avec la photo de droite, vous avez la preuve, c'est bien la pointe du confluent, donc en fait un bâtiment extrêmement lourd placé sur du remblai. Vous imaginez, enfin vous avez entendu parler des retards multiples du chantier, c'est une des causes, c'est pas la seule, mais c'est une des causes, puisque la première entreprise qui construisait le musée n'arrivait pas à ancrer le musée de manière assez solide pour pouvoir continuer. Voilà, quelques vues, notamment avec ça, vraiment une prouesse architecturale assez impressionnante qui s'appelle le puits de gravité. Alors, c'est pas le musée qui s'est effondré, c'est pas une météorite qui est tombée, c'est vraiment une volonté de l'architecte. Et c'est en même temps un élément de structure qui tient complètement la partie avant, le cristal, qui structure vraiment, qui le soutient. Et donc là, on le voit de l'extérieur, donc avec des gens qui sont en train de travailler en rappel. Et puis de l'intérieur, donc en fait, c'est en partie creux, mais couvert quand même à un certain niveau. Et donc ce puits de gravité est dans le hall d'entrée du musée. Et vous avez toute une rampe qui tourne autour du puits de gravité qui va permettre de desservir les salles d'expo. Je pense que ça va être assez spectaculaire. Voilà, une petite vue de l'intérieur avec le couloir d'accès aux expos permanentes. Ce qui est assez rigolo au musée des Confluences, c'est que l'extérieur est très complexe. Alors, on n'aime pas, mais c'est très complexe. L'intérieur est d'une grande simplicité de circulation. C'est assez étrange. Et donc, j'ai pas pu vous montrer les salles d'expo permanentes parce qu'elles n'étaient pas accessibles. Et, vous avez en revanche une salle d'expo temporaire. Donc là, c'est sur deux étages différents. Premier étage, expo temporaire. Deuxième étage, expo permanente. Et donc, j'en profite pour aborder ces expos permanentes brièvement pour vous dire que ça rentre dans un projet scientifique culturel assez nouveau par rapport à l'historique du musée, puisque c'est l'héritier du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon, du musée Guimet, du musée colonial, et j'en passe. Et donc ce musée cherche à faire dialoguer les sciences et sociétés, donc ça finalement c'est devenu presque, je ne dis pas une banalité, mais c'est quand même assez développé par ailleurs. Et on arrive même aussi à sciences, arts et sociétés, notamment parce que notre directrice est très versée sur art et beaux-arts. Et donc le but, c'est en fait de développer des thématiques thématiques dans 4 parties d'expo permanentes qui permettent de faire se côtoyer, voire se confronter, des objets qui viennent de départements complètement différents. Donc nous, les départements, c'est sciences terre, sciences vie, sciences humaines, donc plutôt ethno, archéo, etc. Et puis donc, un département sciences techniques extrêmement récent qui s'est créé en 2005. Alors, à la recherche des collections, c'est vraiment à la recherche au sens littéral du terme, puisque nous n'avions aucun objet à présenter, qu'il fallait alimenter les thématiques des expos permanentes, on a dû tout monter de A à Z à partir de 2005. Alors, ça paraît assez ancien, il faut savoir simplement qu'une des dates d'ouverture du musée, l'ancien musée a fermé en 2007, en juin 2007, et Confluence devait ouvrir en 2009. Donc ça faisait une période extrêmement courte pour trouver des objets. Donc à l'origine de la création, il y a la Sainte Trinité au musée des Confluences. Donc vous avez sur la gauche Laetitia Maison qui est ma prédécesseure. Au centre, Michel Côté qui a été le directeur du musée des Confluences entre 2000-2010. Et puis à droite, Bruno Jacomi, directeur scientifique du musée et puis qui a été recruté justement pour cet aspect sciences techniques. Donc pour monter une collection très rapidement, puisque nous n'avions rien, on a eu recours à deux méthodes. Acheter des objets, et donc là on s'est fait aider par des gens, des spécialistes comme Paolo Breni ou Anthony Turner, et puis on a aussi demandé à d'autres institutions des prêts ou des dépôts, selon. Et donc ces institutions, je vais les citer pour ne pas alourdir la présentation des objets, je vais simplement en citer quelques-uns. Donc nous avons des objets prêtés par le Musée des Arts et Métiers, déposés par la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec beaucoup aussi de conservatoires, d'entreprises locaux comme la Fondation Berlier, le Conservatoire SEM, les collections historiques France Télécom, la Fondation de Fourvière, etc., l'Observatoire de Lyon et les collections de physique de Lyon 1. Donc je vais vous présenter quelques objets, je ne pourrai pas tous les décrire parce que sinon je pense qu'on me tapera dessus pour avoir dépassé le temps imparti. Donc la première exposition traite des origines et on l'aborde sous différents angles et les objets sciences techniques sont en bonne part dans la mesure du temps, la mesure de l'espace, l'exploration de l'univers et on a voulu montrer en fait par une sélection d'objets que la science elle se faisait pas qu'en Occident, ça peut paraître une évidence mais c'est mieux en montrant d'autres objets. Donc là vous avez un calendrier balinais qui contrairement aux apparences est assez récent et c'est une autre manière de compter le temps avec toute une mythologie derrière et puis des événements liés aux cultures. On a également des objets japonais. Ça fait vraiment référence, là pour le coup, au développement des collections d'ethnologie extra-européenne du Musée des Confluences. On a beaucoup d'objets du Japon, de Chine, d'Orient, notamment du fait de l'historique de Guimet, des fonds, des missionnaires que nous avons également en dépôt. Donc voilà, une horloge mécanique, mais qui s'adapte à une conception du temps assez variable. Donc en fait, on peut régler les jours et les nuits grâce au folio qui est en haut de l'horloge. Et puis à droite, une horloge de feu, une horloge à encens dite de feu. Et en fait, vous avez des poids qui tombent sous une assiette quand l'encens brûle des fils. On a également un très beau cadran solaire chinois, assez exceptionnel, qui daterait, en tout cas, c'est pas complètement certain, mais a priori, ça serait bien ça, de la période Shu, donc entre 6e et 3e siècle avant Jésus-Christ, un objet en argent, et qui divise en fait, qui est divisé en 70 parties. Alors, il manque le stylet au milieu. Et puis on a aussi, donc on aborde la thématique de mesurer la mesure du ciel avec deux objets, donc je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit d'un point de vue juridique, ce sont deux objets de l'Observatoire de Lyon qui sont tous les deux classés, qui ont tous les deux fait l'objet d'une restauration, et en particulier le quart de siècle, avec une restauration qui a été tout à fait exemplaire avec un comité scientifique, je crois que vous en faisiez partie, monsieur Davoigneux, voilà, qui seront également exposés. Juste, je reviens sur le quart de cercle pour vous signaler que c'est un instrument exceptionnel à plus d'un titre. C'est le quart de cercle de Lalande qui a servi en 1751 à mesurer la distance Terre-Lune de manière plutôt exacte. Donc c'est un instrument vraiment, vraiment précieux. Voilà. Dans l'exploration de l'univers, on a un télescope de Foucault, et puis à droite un spectrographe qui vient aussi d'être restauré de manière assez magnifique. Donc là, c'est les collections Lyon 1. Pour le spectrographe, c'est la collection de physique de Lyon 1. Explorer l'univers, on présente aussi des maquettes, puisque sur un certain nombre d'objets, en fait, on dispose de maquettes à l'échelle 1. Donc sur la droite, le fameux Spoutnik 2, vous savez, qui a emmené le premier être vivant, la pauvre petite chienne Laïka, qui n'a pas fait long feu, si je peux dire. Et puis sur la gauche, la sonde Huygens, donc, qui a atterri en 2005 sur Titan, un des satellites de Saturne, et donc dont on a une représentation, alors, qui n'est pas... très belle quand on la voit de près dans les matériaux, mais qui fait son effet quand on l'installe dans de bonnes conditions. Alors là, on passe à la deuxième partie de l'expo permanente qui traite espèces, donc les rapports entre homme-animal. Et en fait, on a eu la chance d'acquérir en 2009 une superbe collection de microscopes simples. C'est la collection Giordano qui vient des États-Unis, qui a été réunie pendant 30 ans patiemment par un passionné d'instruments scientifiques anciens. Et cette collection, on a 116 instruments et on va en présenter 75 dans une vitrine qui va ressembler un petit peu à un cabinet de curiosité. Donc ça va être assez sympathique. Et dans l'optique, l'approche sur la classification en fait du vivant, on aborde avant la classification un peu symbolique, par exemple dans les civilisations amazoniennes, et puis ensuite une classification un peu plus scientifique avec ces microscopes. Donc là, c'est des photos prises lors d'un montage à blanc, ce qu'on appelle montage à blanc, pour essayer de montrer un petit peu ce que vont être ces différentes vitrines. Je vous en montre quelques-uns, je ne peux pas m'attarder sur tous, mais vous dire qu'en fait cette collection peut être abordée de plein de manières différentes. Donc là, c'est un instrument qui fait à peu près cette taille, 3-4 cm en fait. Moi, quand je l'avais vu qu'en photo, quand je l'ai vu en vrai, j'ai trouvé ça assez étrange. Donc c'est un instrument conçu à la fin du XVIIe par Anthony von Leeuwenhoek, marchand drapier à Delft, et donc qui a fait lui-même son propre instrument avec une petite... sphérule de verre qui grossit à peu près 250 fois. Et c'est avec cet instrument qu'on a découvert, en fait, on a fait un peu une bascule du regard dans la microscopie en passant à l'invisible. C'est lui qui a décrit pour la première fois les protozoaires, les spermatozoïdes, certaines cellules, en plus de manière assez rigolote. Et là, c'est une réplique 19e, il y en a très très peu, il y a très peu d'originaux encore dans le monde. La star de la collection, donc un microscope de Huygens, conçu par Huygens en 1600, à peu près entre 1678 et 1680, quand il était à Paris et qu'il s'intéressait particulièrement à l'optique, qui a été merveilleusement gravé par Pouilly. Juste petite précision, là il en reste 3 dans le monde. C'est le seul à avoir son petit coffret d'origine, qui est un petit étui à violon, c'est assez mignon. Alors, on peut en dire plein de choses, et notamment donc, l'envisager sous l'angle de l'histoire des sciences, avec des grands noms qu'on retrouve dans la collection, donc Joblo, mathématicien, Darwin, alors c'est pas le microscope de Darwin, c'est celui qui a été conçu par Darwin et qui l'a emmené sur le Beagle, notamment pendant ses voyages. Il y a celui de Raspail, et là c'est bien l'original de Raspail. On peut l'envisager sous l'angle des formes. Il y a des séries de formes qu'on retrouve avec plusieurs matériaux différents et avec des formes extrêmement compactes qui présentent le grand avantage de pouvoir être mis dans une poche et donc d'aller faire des observations de terrain. Alors on peut l'envisager sous l'angle des usages, entre le compte-fil, l'appareil de dissection, le microscope à aquarium qui permet de regarder des petits animalcules dans l'eau sans les déranger. Et puis on peut l'envisager aussi sous l'angle des matériaux. On a beaucoup de matériaux divers, certains très rares, et certains qui ont posé de gros problèmes à l'exportation pour les raisons de CITES par rapport à l'ivoire, par exemple. Voilà, donc sous l'angle des fabricants. Et puis on a aussi quelques microscopes composés, voilà, dont un du Musée des Arts et Métiers. Dans la troisième partie des expos permanentes, on parle des échanges, et donc là, vous avez un accélérateur de particules Cockcroft-Walton qui date des années 50. Alors, il y a plusieurs intérêts, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais notamment d'avoir le schéma de montage à côté, ce qui veut dire aussi qu'évidemment, on ne va pas le remonter en entier, on ne monte que la partie que vous voyez là, et donc dans une configuration non fonctionnelle, bien entendu. Et juste vous dire que le local que vous voyez autour de cet accélérateur nous sert aujourd'hui de réserve de grands objets, puisque nous n'avons pas de réserve spécifique pour les objets scientifiques. D'autres objets dans une partie créée, innovée, qui était volontairement centrée avec les partenariats locaux, donc un métier à tisser et puis un moteur de camion Renault Trucks, et avec des innovations à la fois techniques et organisationnelles, et des transferts de technologies. Voilà, on a aussi deux collections techniques assez sympathiques. Une collection conservatoire SEB, où là on fait vraiment rentrer le quotidien au musée. Et en fait, ces collections suscitent vraiment beaucoup à la fois d'appropriation, d'histoire de la part du public, et c'est extrêmement intéressant. Voilà, on aborde aussi l'innovation du point de vue de l'échec. Tout ne marche pas. Hein. Aujourd'hui, 90% des innovations technologiques résultent en échec. Et ça fait partie du processus d'innovation, c'est normal. Et donc à gauche, notamment, vous avez ce qu'on appelle une photocopieuse à crêpes, qui était destinée aux collectivités et qui n'a pas franchement trouvé son public. Et je pense qu'il devait être assez ennuyeuse à nettoyer. Voilà. Alors, à la recherche des publics, maintenant, cette collection, donc, elle est arrivée au moment, en fait, elle continue à arriver, mais en tout cas, elle est arrivée au moment où le musée était fermé. Donc, on l'a valorisée dans des expositions hors les murs. L'exposition Observée, qui a eu lieu en 2010, dans laquelle on a présenté beaucoup d'objets sciences techniques, et ça a passionné absolument le public. Je passe relativement vite, mais en tout cas, un petit mot sur la médiation humaine. Cette médiation, comme dans d'autres musées, par exemple le MUSEM, va être en partie externalisée, mais sera bien pilotée par le musée des Confluences. Et c'est clair que sur les objets sciences techniques, il n'y a pas vraiment d'historique auprès des médiateurs et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc c'est une des choses sur lesquelles se penche Séverine, puisqu'elle est didacticienne des sciences, et on va essayer de trouver des outils un peu performants là-dessus. Mais on fait aussi de la médiation avec des outils de médiation. Nous avons une collection d'objets de médiation et on essaye de l'enrichir en sciences techniques. On fait aussi, évidemment, il n'y a rien de tel que de pouvoir tester par soi-même. Autre exposition hors les murs, le musée dévoile ses réserves, qui a eu lieu il y a quelques années. Et là, vous voyez le plateau des sciences et techniques, avec l'irruption des nouvelles technologies, comme on dit, dans la médiation, avec sur la gauche une tablette individuelle qui servait à faire un jeu, et sur la droite ce qu'on appelle une table multi-touch, qui permet en fait de manipuler à plusieurs une grande table tactile, de faire des jeux ou de la réalité augmentée. Enfin, beaucoup d'applications sont possibles. Et donc ça va être complètement développé au sein du musée. On aura ce qu'on appelle un muséolab qui va être dirigé par le centre Erasme. C'est un service du département spécialisé dans les nouvelles technologies. Et beaucoup de projets en cours au sein des expos et dans ce muséolab. Sachant que la rencontre des publics, elle va se faire aussi sur le nouveau site internet qui est en cours de refonte et par bien d'autres moyens encore. Dernière partie. Recherche partenariat à la recherche contemporaine. Le musée, traditionnellement, a toujours noué des partenariats, donc je vous en cite seulement quelques-uns. Par exemple, le partenariat REMUT, on n'a pas encore parlé de ce réseau des musées techniques qui est piloté par le CNAM, Musée des Arts et Métiers. C'est grâce à ce réseau, notamment, que nous allons collecter très prochainement un microscope électronique à balayage. D'autres réseaux de recherche qui existent un petit peu au hasard des rencontres. À gauche, c'est rentré en fait via le CEA de Grenoble, donc petit clin d'œil avec le professeur Roland Douce, spécialiste de biologie végétale. Et vous avez ni plus ni moins qu'un ensemble de laboratoires qui aboutit au prix Nobel de chimie en 1961 sur la photosynthèse, découverte de la photosynthèse. Et à droite, je pense à un objet qui devrait intéresser Sylvie Bretagnon, qui vient de la plateforme d'imagerie médicale CERMEP à Bron, et c'est un scanner TEP, donc tomographie et émission de positons. Et là, il arrive dans 10 jours. Mission PADSTEC, bien entendu, nous y sommes depuis un an à peu près. Elle s'appuie en fait sur une convention cadre avec le PRESS de Lyon. Et puis, elle a pu être lancée grâce à l'arrivée de Séverine comme doctorante pour nous aider à lancer cette mission. Et donc là, c'est une des collections aux Hospices Civils de Lyon, collection de radiologie, qui nous a déposé un ensemble de radiologie du début du XXe siècle. D'autres instruments, alors le musée Testu d'anatomie de Lyon 1, de Lyon 1, avec Petit musée des horreurs, je vous le recommande fortement, je vous expliquerai ce que c'est si vous voulez. Lyon 1 toujours, ce n'est pas un grille-pain, c'est une cuve de chromatographie en couche mince. Et puis, dans la thèse de Séverine, donc, on essaye en fait, de développer un petit peu les biographies d'objets qui essayent d'intégrer à la fois les archives, les représentations, l'histoire, les savoir-faire. Donc, je vous montre juste quelques images pour terminer de cet accélérateur, avec notamment beaucoup de représentations de ce type d'accélérateur et même une petite série qui a été filmée à l'IPNL à Lyon. Voilà. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Et donc, le but, c'est de le remonter. Enfin, en tout cas, il décide de le restaurer. Donc, Rémi Gindreau, ici présent, va essayer de se coller à cette lourde tâche, au moins partiellement. Et le but serait de le remonter devant l'IPNL pour le présenter un petit peu comme ça se passe au CERN. Voilà, mais c'est quand même encore dans un local en activité. Et donc, l'arrivée de Séverine, je voudrais souligner le fait que d'avoir une chercheuse avec nous nous permet de reposer d'autres questions sur la collection et des questions qui ont été évoquées tout à fait ce matin sur la patrimonialisation, le statut juridique, sur qu'est-ce que le contemporain et comment ça s'intègre là-dedans et comment on sort aussi le patrimoine scientifique et technique et qu'on l'intègre plus globalement dans une histoire et dans un lieu. Et je vous remercie de votre attention.